Un pionnier est quelqu'un qui commence quelque chose ou quelqu'un qui participe à quelque chose. Praise the Lord. Et nous parlons du pionnier. Et il y a une question que une femme m'a posée hier. Je ne sais pas si elle est ici aujourd'hui. Elle était devant, m'a posé une question. Comment est-ce que j'ai commencé lorsque j'ai débuté le travail en Afrique du Sud qui s'est répandu dans toute l'Afrique australe. Et ce n'est pas seulement commencer, mais c'est comprendre aussi et c'est se donner totalement aussi à la chose. Regardons le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 19. Il dit, allez partout le monde et puis prêcher la bonne nouvelle à toute la création, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder toutes choses que je vous ai commandées. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. Alors, toute l'idée de commencer quelque chose, c'est d'avoir un objectif dans la pensée. Un, qui est de commencer un travail évangélique pour accomplir la grande commission. Lorsque nous parlons de pionnier de l'Église, c'est de commencer quelque chose, commencer un travail ministériel avec un objectif de gain des âmes dans le royaume. Le gain des âmes pour notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la première des choses. C'est partir dans un territoire, aller dans une nouvelle place, dans un nouvel endroit, commencer l'œuvre du ministère avec l'objectif de éduquer les gens à gagner les âmes. Mais il y a certaines choses qui sont demandées pour que le pionnier soit effectif. Il y a certaines choses que le ministre de Dieu doit faire afin que son travail en tant que pionnier soit effectif. Un pionnier, ou c'est quelqu'un qui doit aimer la prière. Le livre de Matthieu, chapitre 9, verset 37, et le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples que la moisson est mûre, mais les ouvriers sont nombreux. Verset 38. Il dit, priez donc le Seigneur de la moisson afin qu'il pousse des ouvriers dans sa moisson. La moisson est grande. Beaucoup de gens sont pas encore nés de nouveau, qui veulent l'évangile de Jésus-Christ, et cela doit être prêché. Mais le problème est que les ouvriers sont peu, et la moisson est grande, la moisson est prête et abondante. Mais les laboureurs sont peu, et Jésus nous dit de prier de prier le maître de la moisson. Et le maître de la moisson, c'est le Saint-Esprit, afin d'envoyer les moissonneurs. C'est ce qu'il dit dans le verset 38. Et afin que le Seigneur puisse envoyer les moissonneurs dans sa moisson. Donc, la moisson n'est pas le problème. Le problème est toujours les moissonneurs, parce que la moisson est grande. Il y a beaucoup de gens dans notre monde, dans notre localité, qui ne sont pas nés de nouveau. Et le défi est ceci. Il y a nécessairement trois groupes. Vous trouvez des gens qui ne sont pas nés de nouveau, les incroyants, qui est une grande opportunité pour nous. Vous avez ceux qui sont nés de nouveau et qui sont dans un mauvais endroit, et eux aussi doivent être gagnés, parce que c'est un problème. Et vous avez trois qui sont pas nés de nouveau, mais qui sont religieux. Parce que le christianisme, ce n'est pas une religion. Le christianisme n'est pas une autre religion du monde. Le christianisme est la vie de Dieu dans le corps humain. Mais le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est Dieu en toi. Et toute autre religion cherche à plaire à Dieu. Mais dans le christianisme, nous ne cherchons pas à plaire Dieu. Dans le christianisme, nous révélons Dieu, nous manifestons Dieu. Voyez-vous cela? Dans d'autres religions du monde, nous devons les atteindre avec notre évangile. Deux, vous avez des chrétiens qui ont des dénominations religieuses et qui n'ont pas la vraie information de la parole de Dieu. Et eux aussi doivent être atteints. Et eux aussi veulent, ont besoin de ton évangile. Et il y a ceux qui prêchent l'évangile des liens et d'autres qui prêchent l'évangile de la libération. Mais la bonne nouvelle est que l'évangile de Jésus-Christ, selon l'évangile de Romains, chapitre 1, verset 16, c'est l'évangile de la libération. Et je n'ai pas honte de l'évangile de Dieu, car c'est la puissance de Dieu au salut de tout homme qui croit. Parce que dans la foi, la justice de Dieu est révélée. Selon ce qui est écrit, le juste ne vivra que par la foi. Beaucoup vivent dans la peur. Beaucoup vivent par l'œuvre de leurs mains. Mais Dieu veut que nous vivions par la foi. Donc, dans le pionnier de l'Église, la prière est très importante. Et lorsque vous allez dans un nouvel endroit et que vous voulez commencer un travail, n'attendez pas que cet endroit réponde facilement à vous. Et aucun ministre ne peut le faire. Tu peux le faire de manière aisément. Ça sera au travers de la prière, le jeûne. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 10. Et lorsque nous parlons de la prière, il y a des raisons pour la raison pour laquelle nous prions. Nous devons savoir pourquoi nous prions. Nous allons regarder cela. Éphésiens chapitre 6, il dit au reste, frères, verset 10, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Tu dois prier afin d'être fort dans le Seigneur. Et un homme qui n'a pas été fait pour commencer une église peut être découragé à cause des difficultés, des circonstances ou les difficultés des lois de là où il veut commencer quelque chose ou du gouvernement qui interfère dans ce qu'il veut faire, dans la régulation de l'église. Un ministre peut être découragé par les difficultés qu'il peut avoir pour enregistrer son ministère dans un endroit, spécialement les nations qui sont contre l'évangile de Jésus-Christ. À un moment donné, enregistrer votre ministère est difficile. Et même lorsque vous enregistrez, il y a les interférences gouvernementales. Les lois qui gouvernent ou qui régulent la monnaie ou qui vous disent que vous ne pouvez pas prendre des offrandes ou vous pouvez prendre des offrandes. Et cela peut frustrer le ministère ou le travail de l'homme de Dieu. Il y a un rôle de confession, mais vous ne pouvez pas rester là à l'époque et à vaincre le combat avec les confessions de la parole, que mon œuvre prospère, mon œuvre prospère. Non, il dit Éphésiens chapitre 6, verset 10, finalement, revêtez-vous de l'armure complète de Dieu afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable, les œuvres du diable. Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté. Au verset 12, car ne luttons pas contre la chair et le sang. Que cet homme qui empêche que ton église soit enregistrée dans cette localité, donc un ministre de l'évangile doit être capable de voir au-delà de ce que l'homme qui veut te stopper d'enregistrer ton église n'est pas un problème. Aussi longtemps que nous croyons que l'homme est un problème, nous n'allons pas gagner. Alors, tu es en train de combattre la mauvaise personne. Mais l'homme de Dieu qui comprend les activités du monde spirituel, ce n'est pas seulement cet homme qui comprend. Et il y a un démon qui part derrière cet homme. Et le pasteur dit, il n'y a pas de problème. Tu ne tombes pas d'accord avec lui. Mais tu sais que lorsque tu seras à la maison, tu vas emmener le vrai directeur. Le vrai directeur, le Père et le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, dans le psaume 24, la terre et tout ce qui le contient appartient au Seigneur. Au psaume 2, verset 8, il dit, demande-moi et je te donnerai les nations en héritage et les extrémités de la terre pour possession. Et Isaïe 60, verset 5, il dit, que toutes choses, je te donnerai les trésors cachés. Les ténèbres, car nous sommes la semence d'Abraham. Alors tu vas dans l'intercession, et les démons et les esprits impurs et les forces des ténèbres avec lesquelles nous luttons, nous combattons. Et nous allons leur demander de laisser leur influence concernant la nation dans laquelle nous allons. Donc, nous ne luttons pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre les puissances spirituelles de méchanceté qui est dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu afin qu'au mauvais jour, vous puissiez résister. Et dans le verset 13, l'apôtre Paul définit l'armure du soldat romain. Et si vous avez déjà vu un soldat romain, et c'est ainsi qu'ils sont habillés. Verset 14. Et dit, tenez donc ferme, ayant saint vos reins de la vérité. Tenez donc ferme. Tenez donc ferme. Et en commençant une nouvelle église, vous devez être ferme dans votre cœur, ferme dans votre pensée. Un homme peut être ferme debout, mais être vaincu dans sa tête. Et lorsqu'il dit de tenir ferme, c'est de tenir ferme dans votre pensée. Et mettez-vous à l'idée que vous allez vaincre. Parce que les ténèbres ne peuvent pas vaincre la lumière. La lumière va toujours vaincre les ténèbres. Et là, vous êtes arrivé, il y a des ténèbres. Et vous allez illuminer cette place. Et donc l'apôtre Paul, dans le verset 14, il dit, tenez donc ferme. Que la vérité puisse... Lorsque nous nous habillons en tant qu'homme, nous mettons une ceinture. Nous mettons une ceinture et la ceinture est pour pouvoir soutenir que l'œuvre que tu es venu faire doit être soutenue par cette ceinture de vérité. Et lorsqu'on va vous dire qu'il y a des gens qui sont venus ici qui n'ont pas pu faire quelque chose, et toi tu leur diras que nous ne sommes pas pareils. Ce n'est pas par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Ta vérité est cela qui fait toutes choses. Et le diable dit, il dira que Dieu a mis mon nom dans les cœurs des hommes ici. Donc, ils vont apporter l'argent pour l'œuvre de Dieu. Et c'est ça le ministre. C'est le travail de la foi. Nous marchons par la foi et non par la vue. La vue dit que tu ne peux pas. La foi dit qu'il y a une porte et la vue dit que c'est tout un mur. Verset 14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins de la vérité, ayant revêtu la cuirasse de la justice. Et en tant que ministre de l'Évangile, vous êtes conscient que vous êtes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est là votre identité. En tant que ministre, vous êtes juste, justifié. Et vous savez ce que c'est la justice. C'est la nature de Dieu qui a été déposée dans votre esprit le jour où vous êtes né de nouveau et qui vous a donné être correct devant Dieu sans le sens d'infériorité ni de complexe. au verset 15, ayant chaussé vos pieds de la préparation de l'évangile de paix. Et par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du méchant. Il dit, par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi. Votre bouclier, vous devez le tenir. Et c'est pour éteindre tous les dards enflammés du méchant. Est-ce que vous savez ce que sont les dards sont? Il envoie. Il envoie les dards de la maladie, de la peur. Et il envoie cela. Et dit, nous allons atteindre cet objectif et nous allons avoir cet argent. Il envoie la maladie vers toi et tu lui diras que la santé divine est à moi. Donc tu es toujours avec ce bouclier, pardon. Et vous allez prêcher l'évangile à 5 personnes et aucune personne n'a donné sa vie à Christ. Tu veux donner à quelqu'un le flyer et dire non, je suis trop occupé. Et bonsoir. Est-ce que je vais parler de Jésus-Christ et dire non, je suis occupé. Et est-ce que je t'ai pas dit que c'est ici que tu ne dois pas commencer l'église ici et tu le diras à Satan que ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et dites, il faut le montrer. L'évangile. Et il dit, et par-dessus tout prenons, et prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Et prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit. Et les gens verront la grâce de Dieu dans votre vie. Ils doivent savoir qu'il y a quelque chose de différent avec vous. Et ce que fait, cela fait que les gens veulent vous écouter. Et c'est parce que tu as ce casque du salut, cette grâce, cette couronne. Que Dieu soit loué. Et l'apôtre Paul dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Et vous regardez dans l'implantation de l'Église, vous devez être un homme de prière, et les prières d'attaque, et les prières d'intercession. Où vous priez pour le pays, vous priez pour les habitants de cet endroit, où vous voulez commencer le travail, où vous voulez commencer l'Église, là où vous voulez mettre l'Église. Vous priez et réclamez cet endroit, les sceaux, les âmes de cet endroit, vous les réclamez pour Dieu. Et parce que notre Dieu exauce les prières, et les cœurs des hommes, seront adoucis, de sorte que même les personnes les plus difficiles seront les premières à donner leur vie à Christ. Que Dieu soit loué. Timothée chapitre 2 et verset 1. Timothée chapitre 2 verset 1, pour l'avoir sur l'écran. Et dit, j'exhorte donc avant toute chose et à ce qu'on fasse des supplications, des prières et des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes. Verset 2. Pour les rois et pour tous ceux qui sont en haut placés, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. L'intercession est une partie de cela. Nous devons faire des prières pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont en autorité. Et si vous regardez le verset 3, « Car cela est bon et agréable devant notre Dieu Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. » Et parce que tout le monde n'a pas la connaissance de la vérité. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchirait. Ce n'est pas seulement la vérité qui vous affranchit, mais c'est la connaissance de la vérité qui vous affranchit. Il y a beaucoup de gens qui connaissent la vérité et la vérité ne leur a pas affranchis parce qu'ils ne sont pas arrivés encore à la libération de la vérité. L'intercession. Dans pionnier de l'Église, vous devez voir ce que les gens ne peuvent pas voir. Au travers de l'intercession, dans le commencement de bâtir l'Église, et Dieu va vous ouvrir les yeux pour voir les stratégies. Et toute nation, toute ville a sa stratégie. Lorsque vous regardez à la parole, la stratégie de l'esprit donnée à Josué pour faire tomber Jéricho, c'était la stratégie de l'esprit. Et parce que personne ne pouvait penser que des cris pouvaient faire tomber ces longues murailles. Ce n'était pas possible que les cris puisse faire tomber cette muraille de Jéricho. Lorsque Josaphat était encerclé avec les trois nations pour pouvoir détruire Israël, et lorsqu'ils ont commencé à louer le Seigneur, et les ennemis ont commencé à s'auto-détruire, et concernant Déborah, la Bible dit que les anges de Dieu et les étoiles ont combattu contre Sisera. Et ce sont les stratégies de l'Esprit. Et dans l'implantation de l'Église, lorsque vous priez et vous jeûnez, l'Esprit de Dieu vous donne les stratégies concernant cette zone. Et il vous dira quoi faire pour avoir les âmes dans cette zone, parce qu'il est l'extraordinaire. Il est le stratège extraordinaire. Il a la clé de toutes les cités. Jésus a dit, voici, j'ai la clé de David, c'est moi qui ouvre la porte que personne ne peut fermer. C'est moi qui ferme une porte que personne ne peut ouvrir. Lorsque vous allez avec lui, il va vous montrer quelle est la meilleure stratégie. Que Dieu soit loué. Nous allons regarder la direction de l'esprit dans l'implantation. Dans l'implantation, nous allons regarder la direction de l'esprit. Et cela aussi fait partie de ce que je vous ai dit concernant la stratégie dans l'implantation de l'Église. La direction de l'esprit est importante, où Dieu est inclus dans l'implantation de l'Église. Regardons Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, verset 1. Or, il arriva comme la foule se jeta sur lui pour entendre la parole, qu'il se tenait sur le bord du lac de Génézareth, et il vit deux nacelles qui étaient au bord du lac. Or, les fleuves en étaient descendus et lavaient leurs filets. Et montant dans l'une de ces nacelles qui était la Simon, il pria de s'éloigner un peu de terre et s'étant assis, il enseigna les foules là-dessus la sannelle. Écoutant la réponse de Pierre, et quand il eut cessé de parler, il dit à Simon, mène en nous en plomb, en pleine eau, et lâchez vos filets pour la prêche. Et Simon répondit, il lui dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris, mais sur ta parole, je lâcherai le filet. Et Pierre, connaissant le terrain en tant que professionnel de la pêche, Pierre savait à quel moment les poissons sont disponibles ou lorsqu'ils sont très très bas dans la mer, parce que c'est son travail. C'est son travail. Et lorsque vous grandissez dans votre travail, vous devenez meilleur. Alors, c'était un professionnel dans la pêche. Et dans cette occasion, et Pierre a jeté son filet partout et il n'a pu rien attraper. Rien du tout. Il a utilisé le terme jeter, et on a jeté partout le filet et nous n'avons pu rien attraper. 3 ans dans le ministère, 15 âmes seulement. 5 ans dans le ministère, 200 âmes, 200 membres seulement. 10 ans dans le ministère, juste 1000 membres seulement. 10 ans avec 1000 membres. Il a les programmes, il a les nuits de prière, il a les conférences, il a voyagé pour les conférences, pour voir ce qu'il veut encore, doit faire pour que son œuvre grandisse. Il connaît ce qu'il... Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il a acheté les livres concernant l'implantation de l'Église. Il est allé dans les conférences pour concernant la croissance des Églises. Il a rencontré des grands hommes de Dieu avec des capacités grandes des Églises et certains ont prié pour eux. Il a mangé avec eux. Mais avec toutes ces associations, et cela ne se montre pas dans la croissance de l'Église. Et il ne peut rien dire, mais seulement à sa femme. Et ce sont des situations qui lui font perdre le sommeil. Ses yeux sont fermés, mais il ne dort pas. Souvent, le dimanche, il doit se pousser, il doit s'encourager pour aller à l'Église. Il veut voir plus de gens à l'Église le dimanche, mais l'Église n'est pas pleine. Il a porté les t-shirts pour rejoindre ses membres pour aller à l'évangélisation, à la distribution des tracts et des flyers. Mais pas beaucoup de choses se sont produites. Il ne sait pas quoi d'autre faire. Et c'était la situation que Pierre s'est retrouvé. Et regarde ce qui s'est réalisé, ce qui s'est passé. Et verset 5, et Simon le dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. J'ai fait ceci avec ma puissance, mais parce que tu l'as dit cette fois-ci. Au verset 6, les ayant jetés, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompèrent. Qu'est-ce qu'était la différence? Pierre est allé partout pour chercher les pierres. Et lorsque les poissons ont vu son filet, dit, nous reconnaissons ce filet. Cette fois-ci, nous n'allons pas rentrer dans le filet de Pierre. Quiconque entre dans ce filet, il n'aura que lui-même à blâmer. Au moment où Jésus est entré dans les pierres, dans le bateau de Pierre, Pierre n'est pas allé chercher les poissons, les poissons sont venus le chercher. Il y a une leçon à attirer pour tout ministre de l'Évangile qui veut travailler dans l'implantation de l'Église. Où sont donc venus les poissons? Les poissons sont venus au travers de la parole. Les poissons sont venus par la parole. Et Simon a dit à Pierre, j'ai pêché toute la nuit, je n'ai rien attrapé, mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Cette fois-ci, je ne vais pas à cause de ma connaissance et mon expérience sur la pêche, mais maintenant, je vais mettre ta parole en pratique et je vais aller jeter le filet. Et c'est à ce moment que les filets étaient remplis de poissons. Numéro 2, lorsque Pierre a dit que j'ai pêché toute la nuit, Jésus devait lui dire que allons-y dans une autre mer, peut-être que cette mer est vieille. Jésus-Christ a dit dans cette même mer où il n'a rien attrapé, dans cette même mer, dans la même cité que tu es, il y a les gens. Tout ce que l'homme de Dieu doit savoir, c'est une relation profonde avec le Saint-Esprit. Mais des fois, nous devons changer de cité en cité ou de ville en ville. Parce que les gens-ci ne réagissent pas à la parole. Si le Saint-Esprit vous conduit à cette direction, c'est bien. Mais si le Saint-Esprit ne vous conduit pas à changer de localité, vous avez besoin d'une nouvelle relation avec l'Esprit. Avec mon expérience en tant que pasteur, et que ceux qui vivent à côté de ton église, ne sont pas ceux-là qui viennent dans ton église, mais c'est ceux qui vivent très loin, c'est eux qui viennent à l'église. Après le service, nous donnons aux gens le coca et lorsque nous prêchons l'évangile, nous mettons les coca à côté pour qu'ils voient s'ils peuvent venir. Et lorsque nous prêchons avec les coca et avec le pain, et je dis à mes leaders que nous devons arrêter le coca et le pain. Et nous devons arrêter ça. L'Église grandit par l'Esprit, pas par le pain. Nous allons leur donner le pain de la vie. Et après, un dimanche, il n'y avait pas de pain, pas de coca. Et peut-être que le conducteur n'a pas donné les pains. Ils sont venus le dimanche prochain, ils n'ont pas vu le pain, ils n'ont pas vu le coca. Ils ont commencé à demander des questions, est-ce qu'ils ont changé d'avis? Le troisième dimanche, pas de pain, pas de coca. Et ils ont su que cela a été fait exprès. Et l'église a diminué. De 13 membres à 5 membres, parce que ces 25 ont été soutenus par le pain. En tant que ministre de l'Évangile, lorsque vous avez un programme, lorsque vous donnez aux gens les choses à manger, ça c'est un programme, ça ne doit pas être une chose, ça n'est pas une toutefois. La congrégation a diminué et j'étais très content. Parce que j'avais le loyer à payer et payer pour le bus qui doit les ramener à la maison. J'ai dit non, on ne peut pas faire grandir une église comme ça. Nous devons changer les stratégies. Essayons de le faire bibliquement. Et le Seigneur a jeté à l'église ceux qui devaient être sauvés. Et Paul a dit, j'ai planté, Apollos a arrosé et Dieu a donné la croissance. Et s'il faut tout, je leur donner le Coca-Cola doit venir ici. Alors nous avons stoppé. Et ils sont partis. Et j'ai dit à mes leaders, et nous allons avoir des vraies personnes à venir qui ne connaissent pas le Coca et le pain. Et après, nous avons changé d'endroit. Et nous avons trouvé une autre localité à planter l'église. Et si vous croyez à penser à une belle endroit, un bel hôtel, alors la salle était revêtue de moquettes. Et nous avons revêtu les moquettes, also, les moquettes aussi, les murs. Et sur le pupitre, nous avons mis un chandelier. Tu peux venir même après le service, quoi. Après le service, tu peux même dormir là. C'était très beau. Mais au-delà de cela, les gens sont venus, ils ont apprécié l'endroit et c'est très beau. Cet endroit est très beau. Après le wow, ils sont pas restés. Est-ce que le bâtiment était beau? Oui. Toutes choses étaient beaux à l'intérieur de l'église. Les chaises. Il y avait les chaises avec les accoudoirs. Lorsque tu es assis, tu es relax. Mais l'église n'a toujours pas grandi. Ce qui veut dire aussi, l'église, la croissance de l'église, ce n'est pas la beauté du bâtiment. Mais qu'est-ce que c'est la croissance de l'église? C'est le Saint-Esprit. Et certaines des choses que j'ai eu à faire pour que le travail puisse grandir dans l'implantation, ta localité est très importante. Lorsque tu travailles avec l'esprit, ne rends pas les choses difficiles pour l'esprit. Parce qu'un ministre peut rendre le ministère difficile pour le Saint-Esprit. Ceci est appelé la difficulté dans le ministère. Et tu ne laisses pas que le Saint-Esprit puisse maximiser le travail pour toi. Lorsque Jésus a commencé son ministère, lorsqu'il a commencé son ministère, il était celui qui allait de lieu en lieu. Et il y a un moment où vous devez aller, vous, de lieu en lieu. Il doit y avoir des gens qui doivent vous chercher à un moment. Vous devez être accessible. Ça fait partie de la direction de l'esprit. Si les gens doivent chercher 10 fois pour, ils tournent comme ça pour trouver ton église. Et après, ils vous retrouvent, vous serez là pour très longtemps. Vous serez là pour très longtemps. Parce que la localité est très difficile à trouver. La localité est isolée. Lorsque vous commencez un travail, vous devez avoir le cœur des gens. Ceux qui viennent le soir, un témoignage négatif peut ruiner ton travail. Donc, ne rendez pas les choses faciles pour le diable. Où est-ce que vous devez mettre votre église est très important. Ceci ne veut pas dire que la localité de votre église doit être dans au travers le marché. Une pensée importante dans la croissance de l'église, soyez prêt à prêcher à tout cela que vous rencontrez. Soyez prêt à prêcher à tout ce qui, à tout cela que vous prêchez. Dans la plantation de l'église, sécurisez la place.